Les prime time, j'en ai jamais fait. J'ai fait, Jacques Martin m'a fait venir deux fois. C'est tout. Mais autrement, jamais. Jamais, jamais. Donc, c'est toujours marché autrement. Donc, on m'a toujours regardé comme une espèce d'ovni, quoi. D'où est-ce qu'il vient, celui-là?
Pom-pom-pom, qui est là? Oui, vous ne rêvez pas, c'est Henri Dess que nous avons rejoint pour cet épisode de Vieilles Branches. On l'a rejoint dans un hôtel parisien où il faisait halte pour aller voir son fils en concert le soir avant de rejoindre la Belgique pour un concert à lui. Première pour Vieilles Branches, l'émission s'est donc enregistrée dans une salle de petit déjeuner déjà prête pour le lendemain. À 79 ans, Henri Dess m'a semblé en faire à peu près 20 ans de moins, léger, rigolo, voire même, et c'est sans doute la première fois que j'utilise ce mot de ma vie, prime sautier. Il semblait aussi solide que la reine d'Angleterre. J'ai donc été très surprise et un peu attristée d'entendre qu'il avait fait un malaise cardiaque qui l'a forcé à annuler sa tournée de décembre. Mais il va de mieux en mieux, assure sa famille et son compte Facebook, et il retournera sur scène chanter des versions rock de ses grands tubes pour enfants, c'est sûr.
Pom pom pom, qui est là? C'est la petite Charlotte. Pom pom pom, qui est là? C'est la petite Charlotte.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille Branche. Pendant près d'une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout, de la
je suis encore désirable.
C'est important.
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance, de leur vie, de l'amour, de la mort, d'Emmanuel Macron, d'Edith Cresson, de la planète à bout de souffle, des relations hommes-femmes, des relations hommes-hommes, femmes-femmes, de Tinder, du Minitel, de Snapchat. Tous les sujets sont permis.
Ah, vieille branche!
Quelle est leur morning routine? Que pensent-ils de notre époque? Quelles sont les histoires qu'ils n'ont encore jamais racontées? Je suis Marie Misset et aujourd'hui je fais mourir de jalousie mes cousins qui connaissaient toutes ces chansons par cœur puisque je suis attablée à une table de petit déjeuner dans un hôtel avec Henri Dess. Bonjour Henri Dess.
Bonjour madame.
Je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, bonjour Henri Dess, j'en suis ravie. Pour l'enfant en moi qui écoutait La Sorcière de Minuit, que je connais encore par cœur, dans le monospace de mes cousins, et pour l'adulte qui pense à la petite Charlotte qui doit faire un gâteau au moins une dizaine de fois par an à chaque fois que j'entends toc 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 ou pan pan pan.
Bon, plutôt pan pan pan, c'est ça.
Bah oui, mais on l'a transformé un petit peu au fur et à mesure. Henri Dess, vous avez accompagné des milliers de voyages en voiture. Vous détenez, c'est presque sûr, le record de concerts donnés à l'Olympia, une quasi centaine. Vous avez dû vous battre pourtant pour qu'on vous écoute chanter vos chansons pour enfants. Vous avez même monté à l'époque votre propre maison de production. Elle s'appelle Marie-Josée, d'après le nom de votre épouse que vous avez perdue en 2017. Alors pour pas baisser les bras, vous avez décidé de rien lâcher, vous avez continué une nouvelle carrière, devenir une rockstar, un nouveau but dans la vie. Une carrière que vous avez lancée avec votre fils qui fait partie d'un groupe qui s'appelle The Grand Gamin. Votre fils que vous allez voir ce soir, mais pour autre chose, on en parlera tout à l'heure. Votre fils qui fait décidément partie intégrante de votre carrière musicale, puisque c'est pour lui que vous avez fredonné et écrit vos premières chansons pour enfants. En tout cas, vous faites un carton partout où vous passez encore. La foule était littéralement en délire cet été, en août, au festival Motocultor, un festival de métal. On l'avait pas vu venir, Henri Dess, à un festival de métal. Mais commençons par le début. Quand est-ce que vous situez, Henri Dess, le début de votre vie? À quand remontent vos tout premiers souvenirs?
Ma vie physique, ma vie professionnelle ou...
Votre vie de Henri Destraz. Votre vie tout court.
De Henri Destraz.
Ah, oui.
Bon, écoutez,
votre envie avec votre nom de famille en entier.
Il y a un moment où on commence à se souvenir un peu de deux, trois trucs, parce qu'on a en âge d'avoir des souvenirs, mais j'habitais à Lausanne, bien sûr. Je suis né à Renan, qui est une petite ville à 10 km de Lausanne. Et puis mes parents ont déménagé, mon père était pédicure, on ne dit plus comme ça maintenant, on s'occupait des pieds de ces dames, de ces messieurs qui avaient des ongles incarnés, des corps, etc. Et puis ils faisaient le massage aussi, et ma mère était coiffeuse, donc ils avaient monté un salon, coiffure, pédicure, massage, tout le truc. Et puis donc j'ai vécu là pendant toute mon enfance, jusqu'à l'âge où j'ai eu envie de partir et d'arrêter l'école.
C'était une enfance plutôt heureuse,
plutôt calme. Oui, plutôt. Je pense que mon père était quelqu'un d'assez tranquille, assez.
C'est
plutôt un intellectuel. C'est un quelqu'un très intelligent. Ma mère était plutôt quelqu'un d'instinctive. Et ils s'entendraient bien pour ça, j'imagine.
Votre maman qui portait un prénom peu commun, que j'ai appris.
Complètement incroyable.
Wikipédia, elle s'appelait Moïsette.
Moïsette, oui.
C'est génial. Donc,
la sœur de Moïse, comme ça. C'est très très rare, les Moïsettes.
Ah oui, c'était ma première.
On n'en trouve nulle part. Voilà. Donc voilà, c'était quelqu'un. Non, j'ai passé une jolie enfance, sans trop de problèmes. Mes parents, au bout d'un moment, ne s'entendaient pas vraiment très bien. Puis ils ne nous faisaient pas trop sentir non plus. Pour pas nous faire de la peine, donc on donnait l'impression que nos parents étaient parfaits, quoi. Hein,
comme tout le monde.
Mais voilà, presque. C'est comme ça.
Économiquement, ça allait, parce que je sais que vous avez perdu votre papa assez tôt, donc ça, vous avez pu continuer à vivre une vie assez tranquille après ça.
Ben non, l'argent c'est pas tout non plus. On peut très bien se trouver dans des situations sans argent, mais heureux quand même. Donc j'ai perdu mon père à l'âge de 17 ans. J'étais apprenti dessinateur architecte. Chez nous, l'apprentissage est très important. Vous devriez faire ça aussi chez vous. Sinon, ce serait important aussi. Si vous voulez faire que les boulots s'ouvrent sur des jeunes qui ont envie de faire quelque chose, l'apprentissage est une très bonne chose. Donc, j'ai fait un apprentissage qui devait durer 4 ans. Et comme tout ce que j'ai commencé, j'ai mal fini. Enfin, même le collège que j'avais commencé, qui devait durer 6 ans, s'est arrêté au bout de 5 parce que j'avais déjà redoublé 2 fois, puis ils m'ont mis dehors. Donc, j'ai pas eu de certificat. Ensuite, j'ai fait un apprentissage de dessinateur architecte au bout de 4 ans. Au bout de 3 ans, j'en ai eu marre, je suis parti.
Juste à chaque fois, vous alliez presque au bout et puis en fait,
oui,
non.
Mais j'en ai tellement marre que je suis parti avant. Bon, une année avant quand même. Et puis, je suis parti à Paris une première fois comme ça, avec ma guitare sous le bras. Je suis allé dormir sous les ponts, je chantais comme ça aux terrasses des cafés. Enfin bon, et je pensais pouvoir faire quelque chose. Mais c'était en plein été, donc tous les cabarets étaient fermés, ce qui fait que c'était pas un bon plan. Et puis, je suis resté 4 mois comme ça, un peu cradingue, et je suis rentré, voilà. Puis après, j'ai cherché des petits boulots chez moi pour essayer de gagner 3 sous, comme représentant, dans le journal Pilote de l'époque, des journaux comme Bonjour Bonheur.
Pilote, c'est des bandes dessinées.
C'est des bandes dessinées, oui. Donc, je faisais un petit peu la campagne vaudoise à vendre des abonnements comme ça, pendant quelques mois. Et puis, on était une bande de copains, enfin, on était tous un peu séparément des gens qui essayaient de faire quelque chose. Alors, il y avait des gens qui disaient des poèmes, pas forcément des poèmes qu'ils écrivaient eux-mêmes, mais des poèmes. Moi, j'essayais de gratter la guitare, j'essayais de faire 2-3 chansons comme ça, j'en connaissais 2 ou 3 qui faisaient pareil. Et puis, je suis entré dans une école qui s'appelait le Coup d'essai, qui est c'est pas vraiment une école, mais disons que c'était... Le responsable des variétés de la radio suisse romande, qui était français d'ailleurs, qui s'appelait Roland G, s'est rendu compte qu'il y avait des artistes un petit peu dans le coin, et puis il avait envie de les réunir et de leur donner un peu des quelques conseils. Et bon, il nous donnait des conseils, on faisait des petits spectacles de temps en temps dans le gros de veau, comme on dit, à la campagne. Et puis donc j'ai appris 2-3 rudiments de ce métier, quoi.
De radio.
Que j'y connaissais que dalle. Non, alors radio pas encore. D'abord pour faire ce métier. Et puis après j'ai dit à Roland, j'ai de nouveau fait une bêtise. J'ai cassé un camion. Je devais aller apporter du linge sale dans les vignes. Et puis j'ai pété le camion. C'était des gros camions VV avec des portes de côté. Et puis j'ai touché une borne au bord du chemin parce que le bord de la route était des toutes petites routes. Puis la portière a fait 3 tours sur elle-même. Le patron a pas aimé. Donc il m'a mis dehors encore une fois.
Mais vous étiez très tête en l'air, c'était quoi votre...
Je m'en foutis ce qu'ils ont, voilà.
Nonchalant.
Voilà, plus que ça. ma sœur me traitait de foutis maçon, de bracaillon, et que j'allais jamais rien faire dans la vie, enfin bon.
Ça va, vous entendez bien avec elle?
Oui, ça va maintenant. Maintenant, elle a compris que c'était une carrière qui était appréciable quand même. Et voilà, donc j'ai dit à Roland, écoute, j'ai plus de boulot, est-ce que t'as un truc pour moi? Et puis il m'a dit, bah, écoute, viens à la radio, tu vas apprendre un peu à faire du montage de bandes. À l'époque, c'était des bandes magnétiques, c'était pas des trucs comme ça. Et puis on récupérait les bandes qui étaient déjà utilisées pour en faire un deuxième usage, voilà. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois. Et puis je lorgnais un peu sur les filles du coin de la radio, il y en avait quelques jolies, dont ma femme.
Marie-Josée.
Et voilà, Marie-Josée. Et puis, puis une année ou deux après, elle travaillait là-bas, donc à la caisse. Et puis on a décidé de partir ensemble à Paris. Et comme je me disais, tiens, partir avec elle, c'est pas forcément le bon plan, parce que... Alors j'ai écrit une lettre en lui disant,
cher Marie-Jo,
écoute, j'ai pas envie de traîner un boulet avec moi, salut. Non, mais c'était pas sympa, enfin bon.
Mais dis donc.
Je lui dis ça. Alors, elle, très intelligemment, elle m'a dit, bah, c'est très bien, pars, tu t'en vas. Puis je dis, oula, peut-être j'ai dit un truc qu'il fallait pas dire. Et j'ai rattrapé le coup, je lui ai réécrit, non, écoute, excuse-moi, j'ai dit une bêtise. Non, on part ensemble, ça sera magnifique. Puis on est parti ensemble, j'avais deux chevaux à ce moment-là, puis on est parti à Paris.
Avec deux matelas sur la deux chevaux, c'est ça?
C'était un peu ça, mais il y avait une chaise à bascule, il y avait un petit frigo, on a tout pris, quoi. On a foutu le camp là-bas, en plein été, juste après qu'on se soit mariés, on s'est mariés le 23 mai.
Donc, vous lui dites, je veux pas partir avec toi parce que ça va être un boulet, mais et ensuite vous lui demandez de l'épouser?
Oui, alors après, on s'est mis à vivre ensemble pendant quelques mois, pas très loin de la radio. Et puis un jour, j'arrive à la cuisine, on avait un petit calendrier, vous savez, on tourne les pages, puis c'est marqué tous les mois, un truc comme ça. Puis c'était au mois de janvier ou au mois de décembre, je sais pas quoi. Et puis je tourne les pages, puis je vois sur le 23 mai un rond rouge. Puis je dis, c'est quoi? Puis il me dit, bon, on se marie, là. Quoi? Elle m'a quasiment imposé le mariage. Mais bon, on s'entendait bien. Donc, j'ai dit d'accord. Moi, souvent, je me laisse un peu pousser, je me laisse un peu aller par les événements. Et c'est encore un événement qui m'a pas forcé, mais quelque part, je me laisse me dire, ouais, pourquoi pas, quoi. Voilà. Et c'est une chouette fille, je l'aime, et puis elle m'aime aussi, voilà.
Mais fallait quand même penser qu'il fallait que vous lui... Enfin, c'était ingénieux comme plan. Fallait se dire que vous alliez remarquer qu'il y avait un rond rouge sur le 23 mai.
Oui, je sais pas comment... Mais ça, c'est un hasard que j'ai tourné les pages. Je sais pas, je lui disais, bon, qu'est-ce que je fais au mois de juin? Et puis d'un coup, je tombe sur mai, et puis c'était marqué 23 mai, puis je me marie. Quoi. Donc on s'est mariés, et puis quelques semaines plus tard, on est partis à Paris ensemble, et puis on avait loué un petit truc de 9 mètres carrés pourri, comme ça, à Boulogne-Billancourt.
Oui, comme plein d'étudiants.
Oui,
aujourd'hui, avec toilettes sur le palier.
Il y avait toilettes sur le palier, ça sentait pas très bon. La seule façon de se doucher, c'est d'aller aux douches municipales. Et puis on allait ensemble, donc les jeunes, ils disaient, tiens, qu'est-ce qu'ils font dans cette douche? Alors ils montaient sur le truc, puis ils voulaient guigner, on leur foutait des coups de linge. Enfin bon, des serviettes. Bon.
C'était la bohème, le temps que les moins
de 20 ans. C'était la bohème, on gagnait pas grand-chose. Moi, je gagnais presque rien. Je faisais des cabarets à Paris, et puis elle travaillait chez Harcourt. Elle faisait toujours la même lettre, Monsieur le Baron, Monsieur le Comte, c'était toujours le même truc. Mais comme il n'y avait pas de façon de renotypeuse de bonne qualité, on obligeait les gens, les secrétaires, à taper la même lettre chaque fois, à retaper complètement. Quoi. Donc,
chez Harcourt, le photographe.
Chez Harcourt, photographe. Ouais.
Il y a quelque chose que vous venez de le dire un petit peu, on sait généralement moins sur vous, c'est que vous n'avez pas été chanteur pour enfants dès le début. Vous avez,
ah non, je n'avais pas d'idée de ça.
Pendant 10 ans, vous avez donc écumé les cabarets.
Voilà. J'ai fait des cabarets, etc. Puis j'ai commencé un peu à faire des... Bon, je me suis inscrit à des concours, j'ai gagné, je suis allé à Varadero à Cuba, je suis allé à Sopot en Pologne, j'ai gagné le concours, etc.
L'Eurovision.
Et puis après, ils se sont dit, tiens, ils gagnent tous les concours, on va le mettre à Eurovision, puis ils m'ont mis à Eurovision. Et je suis sorti 3e. Donc ça a fait tout d'un coup, on m'a mis un éclairage incroyable sur moi, parce que tout le monde m'a regardé à la télévision, c'est quoi ce Suisse là qui chante une chanson, et puis il est sorti 3e avant Julio Iglesias, etc. Enfin, c'est rigolo.
Et la chanson, c'était sur les minettes? Qu'est-ce que c'était la chanson?
Ah oui, c'était un petit peu un dragueur qui raconte un peu, qui rentre chez lui au bout de 3 semaines avec des souvenirs un peu... dans ses poches, quoi.
Et ces chansons, votre fils, et c'est ça que vous allez voir ce soir au Petit Alhambra, parce que vous allez le voir, votre fils a repris certaines de vos chansons que vous aviez écrites dans les années 70. Pierre.
Alors, l'année passée, il me téléphone, c'était au mois de mai l'année passée, puis il me dit, écoute, papa, j'ai rêvé d'un truc. Je dis, bon, quoi? Il dit, j'ai rêvé que je chantais tes chansons d'avant. J'aime beaucoup tes chansons, je les trouve belles. J'ai rêvé que je chantais ces chansons. Puis je dis, puis alors? Puis il me dit, puis alors quoi? Je dis, bah, tu veux les chanter? Je dis, mais genre, c'est ça, je te téléphone pour dire, j'ai fait un rêve. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité de les chanter, mais pourquoi pas, je vais y réfléchir. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à les travailler, puis il a fait un disque qui s'appelle Le Temps Perdu, très beau. C'est juste 2 guitares, une basse. C'est très, très, très fin comme ça.
C'était émouvant, ça? Enfin, je veux dire,
je trouve que c'est très émouvant parce qu'il y a des chansons, qui je racontais des choses à l'époque, c'est des chansons assez sociétales quelque part. Je raconte La Forêt par exemple, c'est une chanson que j'ai écrite il y a 40 ans mais qui parle de la destruction des forêts dont on parle maintenant quoi, c'était voilà.
D'ailleurs, j'ai lu que vous disiez, je ne suis pas un contestataire, mais bon, donc dans ces chansons, il y a de l'écologie déjà dans les années 70.
Oui,
être écolo aujourd'hui, c'est un peu obligatoirement être un peu contestataire.
Ça pourrait être, on pourrait dire ça, oui, ouais. Oui, oui. Mais moi, en disant qu'à l'époque, quand je chantais ces chansons, les gens qui marchaient, c'était des gens qui faisaient vraiment de la contestation à point levé. C'était Maxime Le Forestier, c'était Béranger, c'était des gens comme ça. Moi, j'étais trop en douceur dans le truc. Je dénonce pas, je pose. Je pose la question.
Je montre.
Voilà, je montre.
Vous avez des idées que vous avez toujours aujourd'hui ?
Oui, oui, oui. D'ailleurs, je continue à lui écrire des chansons. Je me suis dit, tiens, il se retrouve avec un disque qui va être un one shot, comme on dit, un coup. Puis après, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est comme c'est pas un auteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Rien du tout. Il aura juste fait ça pour le plaisir de me faire plaisir, quoi.
Donc vous lui écrivez des nouvelles chansons ?
Et là, actuellement, je lui écris des nouvelles chansons. Et d'ailleurs, dans son spectacle, il y en a déjà 4. Et il va enregistrer un tout nouveau disque au mois de janvier, qui sortira au printemps l'année prochaine.
Donc la famille du
avec des chansons complètement originales, pour adultes.
Pour un foutimaçon et un bracaillon, j'adore ces deux mots, Henri Dess s'est quand même démené comme un diable pour faire entendre ses chansons. Comme il va vous le raconter, ça n'intéressait pas grand monde, et c'est à la force de sa confiance et sans lâcher qu'il est aujourd'hui l'homme qui a fait presque 100 concerts à l'Olympia. Pourtant, son premier Olympia en 1986 a été un cauchemar. Devant lui, dans la salle, il y avait 18 personnes. Je ne sais pas si vous visualisez l'intérieur de cette salle, mais 18, ça fait vraiment pas beaucoup. 2 ans plus tard, il retente le coup et remplit la salle, cette fois d'affilée. La famille, ça, c'est vraiment un socle chez vous. Votre femme, elle a cru en vous, mais dur comme fer. J'ai lu hein, quelque part qu'elle avait travaillé pendant des années pour assurer quand même le quotidien au cas où vous aviez pas
elle est un concert. Court, hein. Ouais. Quand j'ai commencé à faire quand je commençais à marcher un petit peu, à faire des spectacles où je gagnais en un jour ce qu'elle gagnait en un mois, parce qu'elle gagnait très très peu, elle gagnait je crois 400 balles quoi par mois. Quoi. C'est une catastrophe. Et un jour, on m'engage en Suisse pour aller faire un spectacle. Les étudiants qui m'engagent. Puis ils m'ont dit, je sais pas si on peut vous, on avait rendez-vous dans un café, puis ils me disent, est-ce que vous seriez d'accord de venir chanter pour nous? J'ai dit, oui, bien sûr. Et combien vous prenez? Puis proposez-moi quelque chose. Puis ils me disent, ben je sais pas, moi, 500 francs, ça irait pour vous. Et j'ai fait semblant de rien, mais je jubilais parce que j'avais jamais gagné autant d'argent, quoi. Et puis je dis, ouais, d'accord. Et ma femme, tu bossais un mois pour ça, quoi. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à gagner un petit peu, j'ai dit, écoute, si tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes, quoi.
Voilà. Elle s'est arrêtée.
Elle s'est arrêtée.
Et alors, c'est pour votre fils, on l'a dit tout à l'heure, que vous avez commencé à chanter des chansons pour enfants.
Alors, quand il a eu 4-5 ans, je me suis dit, tiens, avec mes petites connaissances d'auteur pour adultes, je vais essayer de lui écrire une chanson pour lui. Qu'ils comprennent le texte, qu'ils comprennent ce que je lui dis, qu'ils puissent chanter la musique, que ça soit un mariage entre le texte et la musique assez clair pour que un môme comprenne ça, quoi, qu'ils prennent sa part là-dedans. Disons, chaque enfant qui écoute, il a l'impression que c'est un peu pour lui que j'ai écrit. C'est souvent un peu comme ça que ça se passe. Donc, je lui ai écrit une ou deux chansons. La première, c'était, je crois, une chanson qui s'appelle Ma petite sœur, qui parle de la naissance de sa sœur, quoi. Vous la connaissez ?
Camille, oui. J'ai fait des petites recherches.
Ma petite sœur est jolie, etc. Voilà. Donc, ouais, c'est parti comme ça. Et c'est, encore une fois, c'est parti sans dire que j'avais fait une carrière avec ça. Je ne peux pas imaginer ça, simplement. Mais je suis allé avec un petit 45 tours qu'on avait fait, où il y avait 4 titres, dans les maisons de disques en France, qui avaient un répertoire pour enfants. Puis évidemment, comme j'étais chanteur pour enfants, ils vont pas m'envoyer le grand patron, ils ont envoyé le pommeau du coin et puis l'apprenti qui venait d'arriver. et qui m'a sorti dans le genre, bon ben écoutez, ouais, c'est pas mal, mais vous êtes d'accord de chanter avec votre fils à la télévision? Je dis non, pas question. C'était à l'époque du Petit Prince, où ça foutait en l'air les gamins de faire de la télévision. Je dis c'est hors de question que je détruise mon môme avec des passages TV, quoi. Donc, j'ai dit non. Donc, personne n'a voulu de moi. Et à partir de là, j'ai monté ma propre maison qui s'appelait Disque Marie-Josée, du nom de ma femme. Voilà.
Mais vous dites que vous en vouliez pas en faire une carrière, mais vous avez quand même été assez loin dans le « je ne veux pas en faire une carrière » jusqu'à créer votre propre boîte.
Au départ, non. Au départ, je me dis, tiens, mes amis m'ont dit, tiens, c'est mignon ce que tu fais, continue, fais-en d'autres. Donc, j'ai fait la valeur d'un premier album qui s'appelait Cache-Cache. Et ça a tout de suite marché, quoi. Tout de suite, il y a eu un bouche-à-oreille formidable là-dessus. Les enseignants qui sont emparés de ça, etc. Et la maison de disques, qui était une toute maison de distribution, me disait, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une TV? Je dis, non, rien du tout. En fait, il y avait un radiobus qui sillonnait la France avec des disques. Il passait d'un village à l'autre. Et les enseignants venaient de temps en temps, quand il arrivait, puis disaient, qu'est-ce que vous avez de nouveau? Et puis il disait, voilà, j'ai telle chose à vous proposer. Et puis, et bon, puis aujourd'hui, ben, je sais pas, ben, aujourd'hui, il y a un chanteur qui va peut-être vous plaire, Henri Dess. Pas qui sait, d'accord. Ben, prêtez-moi le disque. Ils empruntaient le disque au radiobus. Puis, c'est pour ça, le processus est très long. Maintenant, la télévision vous prend un type, vous le montre tout en haut, puis tout le monde sait qui c'est, mais à l'époque, il fallait partir de zéro. Donc, le prof arrive chez lui, il écoute ça, il dit, ah, c'est bien, bon, je vais peut-être prendre une chanson, la prendre au môme. Il en choisit une trois semaines plus tard, tout d'un coup, il commence à apprendre ça aux gamins, et puis les gamins rentrent chez eux en fredonnant une de mes chansons, puis les parents disent, c'est quoi? Ben, c'est à l'école. Mais c'est quoi? Je sais pas. Bon. Et alors, ils vont voir le prof deux, trois semaines après, il chante une chanson, c'est quoi? Puis il dit, ben, c'est mon gros loup, mon petit loup, je sais pas quoi, le facteur, j'en sais rien. Ah, c'est marrant, où est-ce qu'on peut trouver ces disques-là? Ben, ça se trouve dans les magasins, peut-être, je sais pas, essayez. Puis voilà, ça fait une espèce de tache d'huile comme ça, d'abord sur Paris, puis ensuite c'est parti un peu du côté de l'Est, parce que évidemment, en Suisse, j'étais un peu plus connu qu'en France, donc ça s'est un peu développé sur l'Est. Puis ensuite le Nord, parce qu'en Belgique, je faisais quelques spectacles. Et après dans le Sud, et après le dernier endroit où ça a marché, c'est en Bretagne. C'était le plus difficile, oui. Ça. Personne ne voulait de moi là-bas, c'était même pas arrivé jusque là-bas. Quoi.
Ben, moi, mes cousins qui écoutaient, ils étaient bretons. Je vous connais en entier grâce à eux, mais c'était des bretons.
Mais c'était après, c'était les derniers, disons. J'en veux pas, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça s'est mis à marcher un peu, et à partir de là,
sans promo, sans rien.
Non, sans rien, pas de télévision, pas de radio, rien du tout. Un peu des gens de journaux, comme ça. C'était vraiment une sorte de bouche à oreille qui a marché de manière incroyable. Puis donc, quand on voit ça, on se dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Hein, parce que si ce que j'écris touche les gens comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison.
Mais d'ailleurs, comment vous écrivez pour les gosses, est-ce que c'est est-ce que vous vous reconnectez un petit peu avec l'enfant qui est encore là chez vous? Est-ce que...
Oui, bah, disons que c'est pas un enfant qui écrit pour les enfants, c'est un adulte qui comprend ce monde, quoi. Et moi, j'avais des enfants à la maison, je les observe, je les regarde, ça me parle, et je vais puiser dans le puits où il y a toutes ces réflexions, tous ces regards que j'ai eus sur mes enfants à moi au départ. Quoi. Et après, je raconte des choses. Et je commence toujours par la musique. Et la musique m'inspire un texte que je mets par-dessus. Et j'essaye de faire en sorte que ce texte fasse un beau mariage avec la musique et que ce soit facile à chanter.
Vous avez eu une célébrité un peu étrange parce que à la fois, vous étiez hyper populaire. Vraiment, je pense que pour plein d'enfants, vous étiez peut-être le premier chanteur connu qu'ils ont connu dans leur vie. Et en même temps, bah, on l'a dit, vous faisiez pas de télé, vous passiez pas à la radio. Je sais pas, vous l'avez vécu comment ça c'est,
moi, bien. C'est rare. C'est mon entourage qui s'énervait avec ça. Parce que mon entourage disait, comment c'est possible de faire 93 fois l'Olympia et puis de pas avoir de pas être dans les playlists, de jamais être passé chez Drucker. Enfin bon. De jamais passer dans les grosses émissions de télévision, des prime time, j'en ai jamais fait. Jacques Martin m'a fait venir deux fois. C'est tout. Mais autrement, jamais. Jamais, jamais. Donc, c'est toujours marché autrement. Donc, on m'a toujours regardé comme une espèce d'ovni, quoi. D'où est-ce qu'il vient celui-là? Comment c'est possible qu'il arrive à vendre autant de disques et à faire autant de spectacles? Ça marche aussi fort. Puis qu'il n'y ait pas besoin de ça. Parce que les artistes qui veulent espérer être un petit peu reconnu, il faut qu'ils passent par ces médias-là. C'est impossible autrement.
Alors aujourd'hui, ça existe un peu différemment. On peut exister autrement. Mais enfin, vous, à l'époque, c'était vraiment du bouche à oreille.
Oui, c'est que le bouche à oreille. Mmh. Mais maintenant, ça continue. Je continue à pas faire de télévision comme ça. Je n'en ai pas fait. Hein. Alors, pour revenir à votre question, là, moi, je l'ai jamais mal vécu, ça. Parce que
pas vexé.
Non, parce que je me disais, c'est très simple. Vous faites un truc et ça plaît aux gens. Et ça plaît aux gens en direct. C'est pas passé par les médias. Ben bon, ça marche. Pas besoin, à ce moment-là, j'en ai pas besoin, les médias. Quand on me dit ça, je dis, bah, écoutez, je suis navré, je vais pas être méchant avec vous, mais j'en ai pas besoin, quoi. Mmh. Donc, moi, ça m'a pas énervé du tout parce que le résultat était là, quoi. Par contre, mon entourage dit, mais c'est pas possible. Mon attaché de presse dit, mais comment je me bats contre des murs, quoi. Impossible. Et j'avais des gens qui bossaient là-dessus. Impossible, quoi. Impossible. Mais c'est vrai, on peut comprendre quelque part que c'est un format qui est un peu particulier, donc ça rentre pas dans le schéma qu'une radio voudrait proposer à ses auditeurs. C'est un petit peu anachronique quand même, c'est un peu particulier. Donc voilà.
Depuis, vous avez fait France Inter là il y a pas longtemps, j'ai vu. Et ils les connaissaient toutes vos chansons.
Voilà, oui, mais ça, oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que tous les chroniqueurs connaissent, ouais, tous.
Une fois que vous avez été hyper installé dans cette carrière et que vous avez sorti des disques régulièrement, c'est quelque chose que vous avez toujours aimé? Il n'y a aucun moment où vous en avez eu marre? Vous avez toujours aimé le faire?
Alors, je me suis réglé une sorte de... Je me suis imposé une règle aussi pour ma famille. Parce que c'est un métier où on peut, bon, tout d'un coup... marcher très très bien puis être complètement cassé complètement des siens, quoi, parce qu'on est trop souvent loin, etc. Donc j'ai pris une décision et je leur ai dit, voilà, quoi qu'il arrive, je partirai 10 jours par mois maximum. Je partirai le vendredi et je reviens le lundi de la semaine d'après, et je vous assure de ça, c'est arrivé. J'ai fait une petite un décrochage au Québec, que je suis parti un peu plus longtemps, mais autrement, c'est toujours été comme ça. Et on a beau me dire, ouais, mais il y a une demande, je dis non, je fais pas. Voilà. Donc en fait, ils savaient que je partais à tel moment, mais ils savaient aussi que je revenais à tel moment. Ce qui fait que ça crée une sorte de ciment comme ça entre nous. Ils étaient reconnaissants de ça, et puis moi aussi, ça me permettait d'avoir une famille, quoi, d'avoir des liens familiaux forts, quoi.
Assez fusionnel, presque.
Ah, très, oui. Bon, ma famille, c'était très fusionnel. Maintenant, avec mes enfants, entre Pierrick, Camille et moi, c'est un clan. On habite tout près les uns des autres. Il suffit qu'il y en ait un qui soit malade, il y en a deux autres qui sont là, quoi.
Vous laissez rentrer des gens dans le clan?
Dans le clan?
Oui.
Je peux pas imposer aux autres des trucs. Bien sûr, moi, j'ai une amie actuellement qui est avec moi. Je pense qu'elle pourrait entrer dans le clan, oui.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène? Parce que ça a l'air d'être un plaisir assez extraordinaire pour vous.
Alors, étant donné que je fais attention de ne pas en faire trop, chaque fois que j'y vais, je suis content, j'aime ça, quoi. Je me réjouis. Demain, je suis au Cirque Royal à Bruxelles. Il y a 1800 places qui sont vendues depuis 2 semaines, il n'y a plus de place du tout. Je sais que je me retrouvais tout seul sur mon tabouret avec ma guitare, et puis toute la salle va chanter. C'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai plaisir. Mais quand je discute avec mes collègues chanteurs, ils se laissent embarquer dans des tournées effarantes, quoi. Des trucs de 3 mois, 4 mois, quasiment 5, 6 spectacles par semaine. Mais ils reviennent, ils sont morts, quoi. Je connais pas Stromae, mais je sais que j'admire beaucoup. Mais je sais que il a fait une sorte de burn-out parce qu'il n'en pouvait plus. Ils l'ont beaucoup trop fait faire de choses. Il a pas su peut-être dire non, quoi. Il faut savoir dire non. Et si on arrive à dire non, on arrive à garder de la place pour la famille.
Et pour le plaisir.
Et pour le plaisir, et pour se réjouir de repartir. Et quand j'ai fini mes tournées, je me réjouis de rentrer. Voilà ça.
Et les premières fois que vous êtes sur scène et que vous comprenez qu'en fait les enfants connaissent par cœur absolument tout et qu'ils chantent avec vous tous, ça doit être assez émouvant aussi.
Oui, bah au début c'était un peu les enfants, maintenant ouais. C'est plus les ouais. parents.
Bah, parce maintenant j'imagine.
Maintenant il y a presque 2/3 de parents dans la salle. Et puis ils chantent tout, les pères, les mères, enfin il y a tout le monde, quoi. C'est fou.
Savoir dire non pour avoir du temps, c'est pas la première fois qu'une vieille branche nous donne ce conseil. Hélène Langevin nous disait il y a peu à quel point les chercheurs manquaient de temps pour discuter entre eux. Axel Kahn, l'année dernière, disait que c'était l'âge qui lui avait appris ça, à dire non pour avoir du temps. Henri Dess, lui, a l'air d'avoir compris cette astuce depuis tout petit. Alors ça a l'air facile, mais pour certains, c'est un vrai travail pour y arriver. Savoir dire non pour avoir du temps et le passer, dans le cas d'Henri Dess, dans son clan. Et alors, au moment du décès de votre femme, votre fille a expliqué dans un média que votre femme avait insisté pour que le jour même vous jouiez, le soir même vous jouiez avec votre fils sur scène, parce qu'elle savait, elle, que ça vous ferait du bien, que c'était un moment où quelque part vous en aviez besoin.
Oui, et puis mon fils, en fait, il était tellement malheureux de voir sa maman partir qu'il a dit non, je vais pas y aller. C'était au Chant du Gros, à Noirmont, en Suisse, une salle, on a chanté devant 5000 personnes. Puis il m'a dit, j'y vais pas, je peux pas. Puis je dis, écoute, j'ai promis à Marie-Jo qu'on irait, alors tu viens pas, tu fais comme tu veux, mais moi j'irai tout seul avec ma guitare s'il faut, mais je le fais. Puis il dit, tu vas y aller tout seul? Je dis, ouais, j'y vais tout seul. Bon, d'accord, je viens. Alors il avait pas le cœur, comme il fait toujours sur scène, parce qu'il fait le fou un peu, mais il l'a fait quand même, ça a été formidable. Quoi. Et alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on savait qu'elle était au bout, on nous avait dit que c'était la fin, mais on savait pas quand. Et on a joué, après on est allé manger, et quand on avait fini de manger, quelqu'un est venu nous dire qu'elle était décédée. Voilà.
Il paraît que si vous ne mangez pas, vous êtes de mauvaise humeur.
Donc oui, c'est peut-être pour ça, elle a attendu que je mange.
Après ça, vous avez un peu multiplié les activités, enfin, vous n'êtes surtout pas arrêté en tout cas.
Ben, vous savez, quand vous rentrez chez vous, il fait nuit, il n'y a pas de lumière, c'est terriblement dur, quoi. Terriblement difficile. Quand on a l'habitude de rentrer chez soi, qu'il fait bon, que ça sent bon, parce qu'on fait quelque chose, la marmite est en train de préparer quelque chose, qu'il y a sa femme qui est à la cuisine, voilà, il y a quelque chose de magnifique dans cette vie-là. Et tout d'un coup, vous arrivez, il n'y a plus rien. Il se fait nuit, il n'y a pas un bruit. Et alors là, ben, j'avais deux solutions. C'était ou bien je me laisse aller ou je ne me laisse pas aller. Voilà. Pris la deuxième.
Et donc, ça vous a, par exemple, poussé à vous retrouver seul en scène, ce que vous n'aviez jamais fait, ce que vous faites demain en Belgique, vous ne l'aviez jamais fait, en fait, avant.
J'ai pris les cours de guitare.
Oui, vous avez pris les cours de guitare. Parce que vous êtes mauvais en guitare, en fait.
Je ne suis pas mauvais, mais non. Disons, on peut dire ça par rapport à des grands guitaristes, des vrais guitaristes. Je ne suis pas bon. C'est glung glung, c'est une ligne de bling, une ligne de bling. voilà, un peu comme disait Bobby Lapointe. Mais comme j'avais des musiciens autour de moi, ça faisait la blague, quoi. Si je fais des accords, ça va pas gêner, ça va pas. Mais c'est pas suffisant pour jouer seul. Donc j'ai pris des cours avec un très très bon guitariste rock, pop, etc. Enfin, avec des moulures, des choses, des façons de jouer. Et puis à partir de là, j'ai créé un spectacle seul, quoi, en solo.
À la base, c'était pour le Québec.
Alors oui, en fait, au Québec, j'ai eu mes amis du Québec, évidemment, qui étaient très proches de Marie-Jo, et puis on se parlait. Et puis un jour, il y en a une qui me fait, Sonia me fait, mais il faut que tu viennes chanter chez nous, machin. Mais écoute, si je viens avec mes musiciens, ça va te coûter un bras. Et puis il y a les avions, les hôtels, tout ça, c'est impossible, quoi. Ça va pas y aller, mec. Puis au bout d'un moment, je dis, écoute, pour vous, je viens, tout seul avec ma guitare, tu fais venir des amis, prendre une salle pas trop grande, 200 places, un tout petit truc, t'invites ta famille, et puis je chante pour vous, voilà, on fait comme ça. Et puis, j'ai un petit peu travaillé ma guitare, et tout d'un coup, elle a ouvert la location dans une petite salle de 300, 400 places, je crois. À l'auditorium de Montréal. Puis elle me téléphone et me dit, Henri, on a ouvert la location à 2h, à 6h, il n'y avait plus une place. Tout était vendu. Je dis, quoi? Elle dit, ouais. Et on peut faire un supplémentaire. Je dis, ben écoute, pourquoi pas? Oui, essaye de voir
s'il y a du monde, si ça intéresse.
Si encore la salle est libre le lendemain. Puis le lendemain, ce n'était pas possible, mais c'était possible le dimanche. On jouait le vendredi. Et ils ont ouvert la location et en une journée, c'était plein encore. Donc en fait, je me suis retrouvé à devoir absolument réussir ce spectacle parce que je me trouvais pas seulement devant trois amis, voilà. Je me trouvais vraiment devant une salle de gens qui voulaient m'écouter, quoi. Donc j'ai travaillé à fond. Ça m'a pris énormément de temps. Enfin, ça m'a occupé du temps. Donc, c'est ce qu'il fallait aussi pour moi, quoi.
Mais c'est quand même formidable ce pouvoir que vous avez. Ça veut dire que vous êtes rentré dans la tête des gens quand ils étaient tout petits. Et maintenant, vous y êtes pour toujours. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas venir au Québec pendant 10 ans. Vous arrivez, il y a 1000 personnes qui attendent que vous chantiez.
Alors oui, bah c'est ce qui s'est passé l'année d'après. J'ai fait le petit Saint-Denis, il y avait 1000 personnes. Ouais, il y avait 1000 personnes. Mais alors, il y a un truc que je ne savais pas. Je connais une dame qui s'appelle en Suisse, qui est une pointure dans le travail du cerveau, avec son mari, qui s'appelle Kim Do. Et on a mangé chez elle. J'ai mangé chez elle. Et puis elle m'a expliqué un truc avec son époux, que le cerveau de l'enfant absorbe et emmagasine jusqu'à un certain âge tout. Jusqu'à 6-7 ans, il emmagasine tout. C'est-à-dire que ça soit les odeurs, les images, les sons, etc. Et ça sort plus. Ça reste dedans à tout jamais, quoi. Donc, si un môme m'oublie parce qu'il a envie d'entrer dans un autre monde, dans le rap ou dans n'importe quoi, il va tout d'un coup passer son adolescence à me quitter complètement, essayer d'oublier qu'il a été un môme parce qu'il veut entrer dans le monde adulte, donc il va entrer dans un autre monde. Et puis, tout d'un coup, il se retrouve à être papa, voilà, ou maman, et puis il vient à un de mes spectacles, et tout d'un coup, tout ressort. Il chante parce que tout revient de manière naturelle.
Tout est là. Oui,
tout est là, tout est dans la tête, voilà. Donc c'est ce qui se passe actuellement.
Ouais. Ouais, un sacré pouvoir. Et puis vous avez surtout continué ce projet avec votre fils, parce que qui avait commencé un petit peu avant la mort de votre femme, le projet de reprendre vos chansons dans un truc beaucoup plus rock.
Non. Alors les chansons rock, oui. C'était avant. C'est avant, bien sûr, puisqu'elle avait dit qu'elle voulait qu'on chante, bien sûr. Et ça, c'était particulier parce que c'était une toute petite boîte de rock. À Bulle, qui est une ville pas loin de Fribourg, en Suisse. Et le programmateur téléphone à Pierrick, parce qu'il le connaissait un peu, lui dit « Écoute, j'ai envie de faire un hommage à ton père, et j'ai envie d'inviter une dizaine de groupes, rock, metal, pop, reggae, enfin, dans leur style, et leur demander de chanter 3 de mes chansons à moi. Et puis en faire un spectacle avec ça. Je suis sûr que je vais remplir la salle avec ça. » Puis il l'a rappelé plus tard, puis en disant « Est-ce que tu penses que ton père serait d'accord de venir chanter après 5-6 chansons comme ça ?» Puis Pierrick me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Je dis « Écoute, j'en pense pas grand-chose, je sais pas. Qu'est-ce que tu crois ?» Il me dit « Mais qu'est-ce que tu perds ? T'as plus rien à perdre, amuse-toi, fais-toi plaisir, allez, on y va comme ça. » Puis on a travaillé dans sa cave, on a bossé avec son pote Raphaël Ortiz, qui joue la basse. Et on a retravaillé les chansons, mais style rock metal, quoi. Et quand on a fait ce spectacle, c'était de la folie. Mais ils étaient pas nombreux, il y avait 250 personnes, mais c'était de la folie.
Les gens sont devenus fous.
Oui, mais c'était fou, quoi. Ça leur faisait tellement plaisir d'entendre ça sous cette forme-là. Et on a continué à faire des petits clubs de rock en Suisse. On a fait la maroquinerie à Paris aussi. Tout d'un coup, on a fait le chant du gros devant 5000 personnes, c'était la même chose, c'est de la folie. Et il se trouve qu'on a sorti un disque qui s'appelle Zinzin, qui est le disque qui reprend une douzaine de chansons pour enfants, mais en style travaillé en rock. Et j'avais une attachée de presse l'année passée qui m'a proposé de faire Europe 1, et je me suis retrouvé devant Patrick Cohen, qui écoute deux ou trois extraits, et puis j'ai trouvé ça rigolo. Et puis il me fait « Est-ce que vous feriez le Hellfest si on vous le proposait ?» Puis je suis « Bien sûr, je le ferai tout de suite. » Et puis, donc c'est vraiment le plus gros festival de métal. Et le lendemain, il y a un programmateur du Motocultor qui m'écrit sur Facebook en me disant « Est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées de votre producteur ?» Ce que j'ai fait, et je téléphone à François, je dis « Écoute, il y a un motoculteur qui me contacte. » « Quoi ? » « C'est pas possible. » Puis je dis « Oui. »
Un gros festival de métal en Bretagne.
« Mais c'est incroyable, j'ai le contacté, il faut qu'on fasse ça absolument. » Donc on a fait, et ça commence à buzzer un peu dans tout l'Ouest, quoi. Tous les journaux en parlaient, tout le monde en parlait.
Comme quoi, les Bretons, on met du temps à les avoir, mais une fois qu'on les a,
ils sont là. Et... puis au festival, je crois, j'ai cru comprendre qu'ils ont 3 scènes. Il y a une scène pas très grande. Ils ont dit, ben, on va mettre Henri sous cette scène-là parce que Il y aura bien 800 ou 1000 personnes qui seront peut-être curieux de voir ce que ça peut donner, quoi. Mais ça a tellement buzzé partout qu'ils se sont décidés de mettre ça sur la salle de 5000. Et puis ça a tellement buzzé encore qu'ils m'ont mis dans la salle, dans le chapiteau de 10 000. Et il y avait 12 000, quoi. Et on a fait le plus gros pogo de tout le week-end. Ça sautait de partout, ça chantait de partout. Et tout le monde en a parlé en disant que c'était un des plus meilleurs, enfin, ce qu'ils ont adoré, quoi. Et puis on a eu des centaines et des centaines de gens qui ont écrit là-dessus, quoi.
Voilà. 10 000 déchaînés, enfin, ça avait l'air vraiment... Oui, c'est ça qui est écrit dans les médias, c'est 10 000 personnes déchaînées.
Oui, c'est ça, complètement déchaînées. Ouais, ouais.
Et ça fait quoi d'entendre La Sorcière de Minuit, par exemple, en scandée par des métalleux avec des gros tatouages.
Et c'est là qu'ils ont fait le plus gros pogo.
C'est vrai?
Ah, c'était fou, c'était fou. Puis ils dansaient, ils sautaient, puis ils ont fait des wall of death, ça s'appelle comme ça. Ils s'écartent comme ça, puis ils se sautent dessus, comme ça, bon. Mais c'est des gens magnifiques, hein. Les métalleux sont des gens très très sympas, quoi, très gentils. Et après, on a fait une signature, mais incroyable, quoi. Il y avait, je sais pas, une queue de 250 mètres, qui achetaient tous des t-shirts. Et voilà. Puis ces t-shirts, c'était marqué Henri Death, D-E-A-T-H. Alors voilà. Donc en fait, on est là, et puis on commence à signer pas mal de dates l'été prochain dans les festivals, parce que c'est vraiment festival, ce genre de truc. Je vais pas faire ça dans une salle de spectacle. Les gens assis, ça va pas.
Mais vous êtes particulièrement en forme quand même.
Vous croyez?
Bah, je trouve 79, c'est ça?
Combien?
79.
Dans une semaine, ouais.
Ouais, dans une semaine.
Dans deux semaines. Ça va bien.
Ouais. Et ça se fait avec votre fils. Avant que ça s'appelle The Grand Gamin, ce qu'il faisait avec son ami Raphaël, ça s'appelait Explosion de caca, on l'a dit tout à l'heure.
Oui, il a fait un incroyable talent avec ça, sorti en demi-finale.
Explosion de caca. Ah, ouais. Vous étiez fier en tant que papa quand vous disiez, bah, mon fils.
Bah, je trouvais ça un peu n'importe quoi. T'appelais ça comme ça, j'ai des gouttes. T'es sûr que tu vas appeler ça comme ça? Puis il me dit, oui, bon, je dis, alors, écoute, c'est tes oignons, mais ou bien tu vas avoir un rejet total, ou alors tu vas susciter une curiosité. Et puis c'est ce qui s'est passé, quoi.
Mais avant que ça fonctionne, voilà, la France a un incroyable talent, ils avaient un petit succès en Suisse.
Oui, un petit. Ouais. Ils ont arrêté parce que c'était trop petit. Ça, c'était sympa, mais ça n'allait pas plus loin que ça, quoi.
Voilà, explosion de caméra.
Mais par contre, ils savaient comment traiter des chansons en rock, quoi, métal.
Et votre fille, elle travaille aussi dans le spectacle.
Alors, elle est directrice d'un petit théâtre de 400 places à Cossonay, qui est à peu près à un quart d'heure de chez moi.
Vous avez l'impression de leur avoir transmis...
J'imagine quand même que quand on est autour de la table et qu'on parle que de ça tout le temps, ça les intéresse, ouais. Ah ouais.
Et d'autres choses?
De quoi?
Bah, je sais pas, vous leur avez transmis d'autres choses que la musique, des valeurs qui vous importent.
Mes valeurs, hein.
Qui sont... Je sais que vous êtes plutôt discret sur ça. On l'a dit tout à l'heure, vous avez dit « je ne suis pas un contestataire », vous n'avez pas forcément envie de vous exprimer sur...
Oui, mais j'ai mes valeurs, mais voilà... je suis très. Bon, je ne vais pas commencer à dire ce que je suis, parce que ça comme si je me lançais des fleurs, mais ça va.
Ça va. Vous êtes quelqu'un de bien.
C'est des assez bonnes valeurs, je crois. Voilà.
J'ai une question qu'on pose à tous nos invités, qui est est-ce que vous croyez que c'était mieux avant?
Moi, pas, parce que je vis un moment formidable. Enfin, je ne parle pas de ce qui s'est passé avec Marie-Jo, c'était terrible. Mais. Ce que je suis en train de vivre maintenant avec dans l'époque où je vis, je trouve ça magnifique. C'est formidable. C'est pas formidable pour tout le monde. Il y a des gens qui sont dans la rue parce que ça va pas. On est d'accord. Mais disons que pour moi, je suis dans une situation assez extraordinaire, je veux dire.
C'est-à-dire qu'à plus de 75 ans, vous pouvez démarrer quelque part une nouvelle vie en étant, faire des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes.
Oui. Oui, parce que ça c'est dépendant de la santé. J'ai une santé de fer, donc ça me permet de faire un tas de trucs, de rencontrer des gens, de dire non, que j'ai pas envie de faire quelque chose, voilà. Et puis ce truc avec Henri Dess et le grand gamin, c'est un projet qui a démarré il y a 3 ans, quoi, et qui est en train de prendre très fort. Et ben, je me réjouis. On va partir sur les routes, ça va être marrant, quoi.
Avec votre fils en plus.
Et puis mon fils, ouais, qui reprend mes anciennes chansons pour adultes à son compte, et qu'il les fait à sa façon, et je suis en train de lui écrire des trucs pour lui, donc...
Donc en plus, vous reprenez même une activité que vous aviez dans les années 70, d'écrire des chansons pour adultes.
Ouais.
Vous aviez complètement arrêté?
Ben, j'avais arrêté d'écrire des chansons pour enfants aussi, il y a à peu près 4 ans que j'ai arrêté complètement. Parce que j'ai l'impression d'avoir tout dit, quoi. J'en ai fait 250, 230, je crois, un truc comme ça, donc... J'avais l'impression d'avoir beaucoup fait et puis tourné autour de beaucoup, beaucoup de sujets. Et puis, j'ai décidé d'arrêter, quoi. Et puis, quand il m'a dit qu'il allait faire ça, qu'il allait se lancer là-dedans, je me suis dit, écoute, s'il se lance là-dedans, puis que ce disque s'arrête après un disque, on attend la suite, quoi. Et s'il peut pas faire la suite, parce que c'est compliqué pour lui. Et puis, je suis auteur, je vais voir si je peux faire quelque chose pour lui, si je peux écrire des trucs. Et je me suis mis à écrire, puis ça sort comme ça.
Ouais, ça vient tout seul.
Je tourne le robinet, toutes les nuits à 4h du matin, j'écris.
À 4h du matin?
Ouais, entre 4 et 5.
Et après, vous redormez?
Ouais. Je dois écrire au lit. J'écris au lit. J'ai mon iPhone, et je mets sur ces petites... comment ça s'appelle ces trucs-là?
Les petites notes, là.
Les notes, oui, sur les notes. Et j'écris, c'est pas déranger mon ami, donc je mets le duvet sur la tête. Et puis, j'écris, après j'arrête, je mets mes lunettes sur le duvet, comme ça, puis tout d'un coup, une autre idée arrive, j'écris. Et le lendemain, je les envoie par mail, je les mets en forme, et j'essaye de voir si je peux écrire une musique dessus, et puis au bout de 3 jours, c'est fait, quoi.
L'inspiration vous réveille à 4h du matin.
Ouais.
C'est fou.
Bah, je me réveille à 4h du matin, parce que mon cycle de sommeil me réveille à 4h du matin, en général, et en général, je me rendors à 5, toujours. Mais là, bah, je me dis, je ne vais pas m'emmerder, donc je vais écrire, quoi.
Et vous lisiez sous la couette comme ça quand vous étiez petit?
Non,
avec
non.
Une lampe
ah,
de
oui,
poche.
Ah oui, j'ai peut-être écrit, c'est peut-être une ou deux fois, oui, j'ai fait ça. À l'époque, c'était une lampe de poche, oui.
J'ai une dernière question
j'en
avant
prie.
De vous laisser. C'est, est-ce que vous avez peur de la mort, Henri Dess?
J'ai jamais pensé à ça. Et maintenant, je vois beaucoup d'amis qui ont mon âge qui sont dans un état un peu difficile comme ça. Et je me dis qu'ils ne vont pas durer longtemps, et déjà, c'est des questions qui se posent, bien sûr. Hein. Mais j'y pense très très peu, très très peu. Ouais. Donc ça veut dire que j'y ai pas... Je sais que ça va arriver un jour, de toute façon, on ne va pas y échapper. Hein. Donc le principal, c'est d'être bien le plus longtemps possible, et de faire jour après jour, heure après heure, des choses qui vous plaisent. Quoi.
Et vous êtes encore un je m'en foutiste?
Oui. Oui, mais sous une forme un peu différente. J'ai un sens du lâcher-prise formidable, quoi. Y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle comment, L'art de s'en foutre, je sais pas quoi font. Moi, j'ai même pas lu, je sais que c'est, moi, j'ai la science infuse. C'est-à-dire que je m'en fous. Il y a rien de si grave que ça, quoi. Il y a des choses très graves, mais il y a plein de choses dans la vie, de tous les jours, sur lesquels les gens s'arrêtent parce qu'ils pensent que c'est tellement important qu'ils se mettent martel en tête, et ils se mettent mal avec ça. Donc il faut s'en foutre un peu, il faut dire, c'est pas grave, quoi, mon Dieu. Si vous étiez pas venu, j'aurais été déçu de pas vous voir, mais je veux dire, j'aurais pas en fait un fromage, quoi, c'est tout. Et puis, voilà, c'est un peu comme ça. La vie, c'est comme ça. Je pense que je m'en fous un peu. J'ai le sens du lâcher prise très fort et. Donc je m'en fous.
Bah, je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Henri Dess.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Un immense merci à Henri Dess pour ce temps choisi qu'il nous a accordé. Et je lui souhaite surtout de retourner très vite sur scène et de faire pogoter les gens à nouveau. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset. Réalisation Aurore Meilleur-Maillot. Mixage Laurie Galigani. Coordination et prise de son, Marine Rowe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.